Bonjour, vous êtes bien installé? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre En vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant, quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Aujourd'hui, L'autre moitié du soleil, le très beau roman de Chimamanda Ngozi Adichie. Lagos, Nigeria, début des années 60. L'avenir paraît sourire aux sœurs jumelles, la ravissante Olana est amoureuse d'Odenigbo, intellectuel engagé et idéaliste. Quant à Kainene, sarcastique et secrète, elle noue une liaison avec Richard, journaliste britannique fasciné par la culture locale. Le tout sous le regard intrigué d'Ugwu, 13 ans, qui a quitté son village dans la brousse et qui découvre la vie en devenant le boy d'Odenigbo. Quelques années plus tard, le Biafra se proclame indépendant du Nigeria. Un demi-soleil jaune, cosu sur la manche des soldats, s'étalant sur les drapeaux, c'est le symbole du pays et de l'avenir, mais une longue guerre va éclater qui fera plus d'un million de victimes. Évoquant tour à tour ces deux époques, l'auteur ne se contente pas d'apporter un témoignage sur un conflit oublié, elle nous montre comment l'histoire bouleverse les vies. Bientôt, tous seront happés dans la tourmente. L'autre moitié du soleil a été récompensée par le prestigieux Orange Prize. Ce roman est un bouleversant chant d'amour, de mort et d'espoir. Master était un peu fou. Il avait passé trop d'années à lire des livres à l'étranger, parlait tout seul dans son bureau, ne répondait pas quand on lui disait bonjour et il avait trop de cheveux. La tante d'Ugwu lui dit tout cela à voix basse, tandis qu'ils avançaient le long du chemin. « Mais c'est un homme bon, ajouta-t-elle, et tant que tu feras bien ton travail, tu mangeras bien. Tu mangeras même de la viande tous les jours. » Elle s'arrêta pour cracher. La salive jaillit de sa bouche avec un bruit mouillé pour atterrir sur l'herbe. Ugwu ne croyait pas, qui que ce soit, pas même ce maître chez qui il allait vivre, mange de la viande tous les jours. Cependant, il ne contredit pas sa tante parce qu'il était trop occupé à imaginer sa nouvelle vie loin du village, qu'il avait la gorge trop serrée. Cela faisait un bon moment qu'ils marchaient maintenant, depuis qu'ils étaient descendus du camion à la gare routière et le soleil de l'après-midi lui cuisait la nuque. Mais ça ne le gênait pas. Il était prêt à marcher des heures encore et sous un soleil bien plus chaud. Il n'avait jamais rien vu de semblable à ces rues qu'il avait découvertes après avoir franchi les grilles du campus. Des rues goudronnées et si lisses qu'il brûlait d'envie d'y appuyer sa joue. Il ne saurait jamais décrire à sa sœur Anulika ses pavillons peints de la couleur du ciel et alignés côte à côte comme des hommes bien élevés et bien habillés, ni les haies qui les séparaient, taillées si plat sur le dessus qu'on aurait dit des tables enveloppées de feuillage. Sa tante pressa le pas. Le clap-clap de ses claquettes résonnait dans la rue silencieuse. Ugwu se demanda si elle aussi sentait à travers ses semelles fines le goudron qui chauffait. Ils passèrent devant un panneau de rue, Odim Street. Et Ugwu prononça le mot « street », comme chaque fois qu'il voyait un mot anglais pas trop long. Il sentit une odeur sucrée, entêtante, lorsqu'ils s'avancèrent dans la concession et eut la certitude qu'elle provenait de grappes de fleurs blanches des buissons de l'entrée. Les buissons avaient la forme de collines élancées. La pelouse scintillait, des papillons virevoltaient. « J'ai dit à Master que tu apprendrais tout très vite, Osio, Osio !» reprit sa tante. Ugwu hocha la tête d'un air attentif, bien qu'elle le lui ait déjà dit de nombreuses fois, aussi souvent qu'elle lui avait raconté à quoi il devait sa chance. Une semaine plus tôt, lorsqu'elle balayait le couloir du département de mathématiques, elle avait entendu Master dire qu'il avait besoin d'un domestique pour faire le ménage chez lui. Et elle s'était aussitôt écriée qu'elle pouvait l'aider, sans laisser le temps à la dactylo ou au coursier de proposer quelqu'un. « J'apprendrai vite, tanti, » dit Ugwu, les yeux rivés sur la voiture rangée au garage. Une bande de métal entourait sa carrosserie bleue comme un collier. « N'oublie pas, chaque fois qu'il t'appellera, ce que tu répondras, c'est « Oui, patron !»« Oui, patron !» répéta Ugwu. Ils étaient arrivés devant la porte en verre. Ugwu se retint de tendre la main et de toucher le mur de ciment pour sentir la différence par rapport au mur de terre de la case de sa mère, où se voyait encore le modelé des doigts. Un bref instant, il eut envie d'y être, d'être de retour dans la case de sa mère, dans la fraîche pénombre, sous le toit de chaume ou dans la case de sa tantie, la seule du village à avoir un toit de tôle ondulée. Tanti frappa contre le verre. Ougbou voyait les rideaux blancs derrière les portes. « Oui !» dit une voix en anglais. « Entrez !» Ils retirèrent leurs claquettes avant de franchir le seuil. Ougbou n'avait jamais vu de pièce aussi grande. Malgré les canapés disposés en demi-cercle, les petites tables, les étagères bourrées de livres et la table centrale ornée d'un vase de fleurs en plastique rouge et blanche, elle semblait encore trop spacieuse. Master était assis dans un fauteuil, en short et maillot de corps. Il ne se tenait pas droit, mais de travers, un livre masquant son visage, comme s'il n'avait pas conscience qu'il venait d'inviter des gens à entrer. « Bonjour, patron. Voici l'enfant, » dit la tante de Guo. Master leva la tête. Il avait la peau très foncée, de la couleur d'une vieille écorce d'arbre, et les poils qui couvraient sa poitrine et ses jambes étaient brillants et d'un noir plus sombre. Il retira ses lunettes. « L'enfant ?»« Le boy, patron. »« Ah oui, vous avez amené le boy. » L'hibo de Master était doux aux oreilles de Guo. C'était un hibo teinté par les bonds glissants de l'anglais. L'hibo de quelqu'un qui parle souvent l'anglais. « Il travaillera dur, » dit sa tantie. « C'est un très bon garçon. Il suffit que vous lui disiez ce qu'il doit faire. Merci, patron. » Master grogna en guise de réponse tout en regardant Ougbou et sa tantie d'un air légèrement distrait, comme si leur présence l'empêchait de se souvenir de quelque chose d'important. La tante de Gwu lui tapota l'épaule, lui chuchota que tout irait bien et se dirigea vers la porte. Après son départ, Master remit ses lunettes, reporta le regard sur son livre et s'enfonça encore plus de biais dans son fauteuil, jambes allongées. Même lorsqu'il tournait les pages, il gardait les yeux rivés sur le livre. Ougbou attendait, debout à côté de la porte. Le soleil entrait à flots par les fenêtres et de temps à autre, un léger coup de vent soulevait les rideaux. La pièce était silencieuse, hormis le bruit des pages que tournait Master. Ougbou resta un moment, debout, avant de se rapprocher petit à petit de la bibliothèque comme pour s'y cacher. Puis, au bout de quelque temps, il se laissa glisser au sol et nicha son sac de raffia entre ses genoux. Il regarda le plafond, si haut, d'un blanc si éclatant. Il ferma les yeux et essaya de revoir mentalement cette vaste pièce au mobilier inconnu, mais il n'y parvint pas. Il rouvit les yeux, submergé par un émerveillement nouveau, et regarda autour de lui pour vérifier que tout cela était bien réel. Dire qu'il allait s'asseoir sur ses canapés, astiquer ce sol lisse et glissant, laver ses rideaux vaporeux. « Comment t'appelles-tu » demanda Master, le faisant sursauter. Ougbou se leva. Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Loïs du lycée des Arènes et aux commandes de la technique de m'avoir accompagnée aujourd'hui. La semaine prochaine, on change de genre avec l'anglais Tom Sharp et le premier volet de la série déjantée Wilt. Très belle semaine et joyeuse lecture sur Esprit Occitanie.